Et bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci de nous retrouver une nouvelle fois ce vendredi soir sur nos antennes pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation qui, exceptionnellement, vous voudrez bien l'excuser, n'est pas présentée par Stanislas Rigaud, qui a malheureusement dû s'absenter à l'étranger pour un voyage d'affaires, je crois. Mais que nous représentons avec joie ce soir et auquel nous pensons. Dans ses heures de travail. Ce soir, j'ai la chance d'être accompagné par de formidables mousquetaires, j'allais dire. Un habitué de l'émission. D'abord, cher Emmanuel Mistral, comment allez-vous ?
Bonsoir Étienne, très bien.
De vous revoir. Et enfin, un habitué, non pas de l'émission, mais de Radio Courtoisie, que les auditeurs connaissent très très bien s'ils écoutent la matinale de Ligne Droite, monsieur Alexandre de Galzin. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Étienne, c'est un plaisir de faire des heures sup en votre compagnie aujourd'hui.
Heures sup bénévoles, je précise.
Bénévoles, bien entendu, mais je négocierai tout de même ça avec Pierre-Alexandre Bouclet, mais on en parlera.
On en reparlera. Ce soir, au menu de cet nouvel épisode de Prolongation, nous allons parler tout d'abord d'un sujet un peu lourd, un peu dense, puisque la loi sur l'euthanasie est arrivée à l'Assemblée nationale cette semaine, ce lundi, et discutée actuellement par les députés. On verra avec Alexandre notamment que les débats ont été parfois houleux et ont parfois engendré des propositions assez... absurde,
original,
c'est le mot qu'on puisse dire pour ne pas dire dramatique. Nous évoquerons ensuite l'actualité internationale, puisque Alexandre revient tout juste, je crois, de Roumanie. Nous évoquerons donc les élections en Roumanie qui ont beaucoup fait parler, notamment à propos du rôle qu'a eu l'Union Européenne. Nous parlons aussi de la Pologne. Et puis Alexandre, je crois, nous racontera quelques anecdotes sur son périple. Et enfin, nous terminerons, parce que c'est vrai que cette actualité commence à dater un peu, mais malheureusement, nous n'avions pas pu tenir la dernière émission, donc nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler entre nous. Nous évoquerons le nouveau pape, Léon XIV. On avait beaucoup parlé au moment de la maladie, puis de la mort de François, du pape François, de nos attentes pour le concile, de comment on imaginait ce nouveau pape. Et bien voilà, le nouveau pape est là. Nous aurons la joie d'en parler, notamment avec Emmanuel, qui est un fin connaisseur de l'Église catholique, et qui, lui, puisque prolongation voyage, et, Alexandre était en Roumanie, Emmanuel était à Rome il y a une dizaine de jours.
En tant qu'envoyé spécial de Radio Courtoisie, bien sûr.
Tout à fait.
On l'accompagne cette fois de Stanislas.
Tout à fait. Voilà pour le programme, chers amis. Alors nous allons commencer donc un peu plus sérieusement avec l'euthanasie. Je crois qu'Alexandre, vous voulez nous faire un point d'abord sur l'avancée des débats et sur le calendrier.
Alors oui, tout à fait. Moi, ce qu'il faut rappeler, c'est d'abord que le texte de loi sur l'euthanasie, c'est un texte qui avait été entamé en mars 2023. Voilà, Commission citoyenne sur la fin de vie qui avait donc fait une proposition de loi. Emmanuel Macron, quelques mois plus tard, annonce une loi. Donc là, on est en avril 2023. Et puis, ce qui se passe, c'est que le débat commence un an plus tard, en mars 2024, où en fait, voilà, on commence à avoir au sein de l'Assemblée nationale, qui est pas celle qu'on connaît d'aujourd'hui, justement voilà,
des pré-dissolutions.
Et exactement, on commence à avoir une commission des lois qui travaille. On commence à avoir également des débats à l'Assemblée nationale. Et puis c'est assez amusant. J'en parlais justement avec il y a un an, je m'en rappelle, avec Christophe Benz, donc qui est le rapporteur pour le Rassemblement national projet de loi euthanasie, qui me confiait environ 10 jours avant le début avant le vote du texte qui devait arriver le 10 juin, voilà, il était un peu désespéré d'une certaine façon que ce texte passe à ce moment-là, parce qu'il avait toutes les chances de passer. Et puis, coup de théâtre, le 9 juin 2024, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, ce qui a pour effet collatéral de mettre en pause l'intégralité des textes de loi qui existent et qui sont actuellement débattus. Alors le texte repart à zéro, mais étonnamment d'ailleurs, c'est une nouvelle priorité que fait Emmanuel Macron et son parti Renaissance de remettre l'euthanasie le plus rapidement possible sur la table afin de reprendre les débats. Alors ensuite, donc tout a repris, plus précisément il y a une commission des lois qui s'est réunie assez rapidement. Il y a une différence majeure avec le texte qui est débattu en 2023-2024, c'est que cette fois-ci on sépare le texte sur les soins palliatifs et celui sur l'euthanasie. C'est-à-dire qu'il y aura deux textes qui seront votés dans les prochains jours. Un texte donc sur l'évolution des soins palliatifs et la place qu'on leur accorde, et un autre texte sur l'euthanasie. Et donc le 12 mai...
Donc ça a été un enjeu déjà de séparer les deux textes. Ça a été,
absolument.
Ça a été un enjeu très important, et pour le coup c'est presque une victoire d'avoir réussi à séparer les deux.
Et c'est quelque chose qu'on doit quand même, c'est peut-être une de ses seules victoires en quelque sorte, à François Bayrou,
bien
qui
sûr
a tenu contre beaucoup d'opposition à ce que ces deux textes restent séparés parce qu'ils voulaient qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de la part des défenseurs de l'euthanasie, qui arrivaient en fait avec un seul texte beaucoup plus facilement à leur fin en faisant passer au travers des soins palliatifs une option d'euthanasie.
Les défenseurs, je crois, de l'euthanasie voulaient se servir des soins palliatifs comme moyen de pression pour faire accepter l'euthanasie. Excusez-nous Emmanuel, on vous a interrompu.
Je m'appelle Alexandre de Galzin. Et Alexandre. Une fois que vous aurez commencé à parler correctement. on reprend donc le 17 mai, donc le 12 mai dernier, les textes commencent à être débattus. L'examen de la proposition de loi sur les soins palliatifs se termine le 16 mai dernier. Le 17 mai, c'est l'article 2 de la proposition de loi sur l'aide à mourir qui est adopté à 75 voix contre 41. Et donc cet article 2, qui a donc été adopté, il crée un droit à l'aide à mourir en définissant l'accès à une substance létale. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est pour l'instant validé dans le texte. Le texte qui, lui, pour le coup, sera voté le 27 mai prochain à l'Assemblée nationale. Ensuite, évidemment, il repassera au Sénat. Donc, un paramètre à prendre en compte et à ne surtout pas négliger, c'est que le texte qui sera voté et très probablement, on en reparlera, mais approuvé par l'Assemblée nationale dans les mardis prochains, repassera au Sénat. Sénat qui est beaucoup plus conservateur, on le sait, que l'Assemblée nationale, et le Sénat qui fera probablement lui-même des amendements exactement à ce texte. Et ensuite, on n'a pas le calendrier précis à ce niveau-là, mais il reviendra quand ces débats seront terminés, ces votes seront terminés à l'Assemblée nationale pour une ultime validation avant sa promulgation.
Merci beaucoup Alexandre pour ce point. Alors on sait que c'est un débat évidemment particulièrement houleux. On sait que en tout cas à l'Assemblée nationale, les discussions sont parfois féroces. Le sujet est un sujet dense qui nous concerne tous, qui est la mort et la fin de vie. Est-ce que on peut s'attendre, compte tenu de l'évolution des débats, à quelle forme de texte on peut s'attendre ? Est-ce qu'on aura un texte assez radical, proche de ce que souhaitaient par exemple les membres de l'association
de l'ADMD, le droit à mourir dans la dignité,
qui est un texte extrêmement radical, qui est assez terrifiant, ou est-ce que avant le passage au Sénat dont vous parliez tout à l'heure, on va arriver, alors j'allais dire un juste milieu, il n'y en a pas forcément sur un sujet pareil, mais à une version la plus raisonnable possible entre guillemets de l'euthanasie.
Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que le texte, quand il est sorti de la commission des lois, c'était un texte, pour le coup, extrêmement radical, qui, parce que la commission des lois, en l'occurrence, rappelons-le, est à majorité de gauche, à majorité NFP, enfin, ou feu NFP en tout cas, et ce qui a donné effectivement un résultat passablement radical. Depuis, les députés, en gros, le camp conservateur se trouve essentiellement chez les Républicains et chez le Rassemblement National, il faut le dire, plus quelques députés d'un peu tous les partis politiques vrai. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des communistes qui s'y sont opposés,
je crois, hein.
Et exactement, des Liottes qui s'y sont opposés, des Renaissances, à chaque fois, sujet partisan dans les tendances lourdes et en même temps pas sectaire en termes de partis politiques. Et il y a eu des amendements qui ont été réalisés. Aujourd'hui, notamment, est passé un amendement qui a été déposé par le député UDR, donc du groupe d'Éric Ciotti, Alexandre Allégret-Pilot, député du Gard, qui justement réussi à faire passer un amendement qui supprimait une partie du texte proposé en commission de loi, qui voulait que dans les enregistrements des décès, l'euthanasie soit comptée comme une mort naturelle. Et ça a été invalidé aujourd'hui, à, je crois, 75 voix contre 61 à l'Assemblée nationale.
Emmanuel, vous avez un regard sur l'avancée législative. Déjà, je sais que avant de parler du fond, évidemment, on sait que la version finale à l'Assemblée nationale sera débattue, sera mise au vote mardi prochain, mardi 27 mai, je pense. On parlera tout à l'heure de la mobilisation qui aura lieu à cette occasion. Emmanuel, vous avez un regard sur le début de ce débat à l'Assemblée nationale ?
On sait déjà que ce qui a été voté pour le moment, qui ne sera pas nécessairement adopté finalement, mais c'est les 5 conditions qui ouvrent droit à l'avortement et parmi... lapsus.
Lapsus très révélateur, je pense.
À l'euthanasie. Donc il y en a 5. Les principales, c'est celle qu'il faut avoir 18 ans, qui a pourtant fait l'objet d'un fort débat avec la gauche et avec le parti LFI, qui voulait l'abaisser à 16 ans pour certaines...
Rappelons que dans des pays comme le Canada ou la Belgique, c'est autorisé d'avoir une euthanasie quand on est mineur. Et quand on est dans des états de... Quand on est considéré comme dans des états de détresse, même psychologique, particulièrement intense. Il y avait notamment cet exemple, il y a environ un an, effectivement, d'une jeune femme de 16 ans qui, en fait, avait eu... accès finalement à l'euthanasie, quelque chose qui existe aussi au Canada, mais qui n'existe pas dans une législation comme la législation suisse, en l'occurrence.
Et parmi les autres critères, il y a celui d'être français, qui là aussi a fait l'objet d'un débat, puisque certains députés, notamment évidemment Sandrine Rousseau, ont demandé à ce que l'euthanasie soit ouverte de manière universelle. Et ça peut paraître étonnant et absurde, mais finalement, ça n'allait pas tant de mon point de vue, dans le sens où, quand on se met du côté de ceux qui ont voulu cette loi, du côté de ceux qui ont promu cette idéologie, mais effectivement, il y a une dimension très, très idéologique et très un peu missionnaire dans la manière de la porter. Et on sent très bien qu'effectivement, c'est pas tant une réponse à apporter à un problème que la promotion d'une nouvelle manière, d'une révolution anthropologique. Et puis, la condition principale, c'est celle qui établit que pour accéder à l'euthanasie, il faut être victime, en tout cas souffrir d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital et soit en phase avancée. Donc c'est ça, évidemment, sur lequel se porte tous les débats, puisqu'il s'agit de déterminer en fait et de définir chacun de ces termes, et c'est ça le problème. Et moi, c'est ça qui m'étonne, enfin qui me, au-delà évidemment du fond sur lequel on est à peu près tous d'accord, c'est cette question de la définition de chacun de ces termes, puisqu'en fait c'est évidemment, comme c'est un sujet extrêmement délicat, sans doute le plus délicat qu'on puisse aborder, chacun de ces termes a en fait des conséquences extrêmement lourdes. Et moi, je me rappelle avoir lu un livre qui est, je crois, peu connu, mais que j'avais eu la chance de devoir lire, même dans le cadre d'un petit stage effectué dans une rédaction de droite, un livre d'Henri de Sauce qui s'appelle « L'impasse de l'euthanasie », un livre qui date de mémoire de 2021, et c'est un livre absolument excellent qui se lit très vite et qui a pour caractéristique de détailler en fait les législations étrangères sur la question de l'euthanasie, et pour montrer en quoi, de mémoire, hein, je ne l'ai pas relu récemment, hein, mais la conclusion du livre, c'est de montrer que finalement l'euthanasie ne peut pas être réglementée, et que légaliser l'euthanasie, c'est ouvrir la voie à toutes les dérives. Aucun pays n'a réussi à réglementer et à garder l'euthanasie dans un certain cadre précis et restrictif. Et il cite des exemples qui ont sans doute connu encore d'autres excès, mais absolument ahurissants. Et je me rappelle notamment un de mémoire en Belgique, je crois, en tout cas c'était en Europe, de frères ou de sœurs jumelles. L'une était décédée dans un accident, et l'autre avait choisi de mettre fin à ses jours, mais elle n'avait pas 20 ans à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça absolument ahurissant, et le livre a une vraie utilité, puisque au-delà moi je suis assez convaincu qu'on n'a pas besoin d'être catholique pour être contre l'euthanasie, mais là, le livre se place encore sur un autre plan, qui est vraiment celui de la législation et du bon sens, de dire on a beau avoir toutes les convictions qu'on veut, mais il y a des excès qui sont absolument ahurissants, et de fait, l'idéologie est trop forte pour tous les pays qui ont tenté de le légaliser.
Étienne Darjac, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, notamment, je sais que vous êtes un libéral, et on sait que l'euthanasie sera remboursée par la Sécurité sociale.
Je ne répondrai pas à vos provocations, cher Alexandre. Je crois que vous vouliez par contre rebondir plus sérieusement sur les propos d'Emmanuel, je crois.
Non.
Bon, bah, très bien. J'avais une question d'ordre plutôt bassement politique, j'allais dire. Je sais pas si vous êtes infligé comme moi la très longue émission d'Emmanuel Macron mardi dernier déjà, ou la semaine dernière, je sais plus.
Mais semaine dernière, mardi dernier. Enfin, mardi dernier.
Pour une raison qui m'échappe, je l'ai regardé intégralement.
Ah oui. Et pour sportif,
j'ai une sorte de maladie. Moi, pour des raisons professionnelles.
Mais moi, même pas. Vraiment, c'est par pur.
Ah, de fait, c'était un.
Par pur dérangement mental.
Un morceau de bravoure, si on peut dire.
Oui. Alors, dans cette très longue émission pendant laquelle le président n'a finalement absolument rien dit ni annoncé.
Et tout dit en même temps.
Il a quand même réussi à émettre l'hypothèse de dire que si par hasard l'euthanasie était bloquée au Parlement, il pourrait recourir au référendum. Alors c'est assez contre-intuitif parce que on a vu les différents textes de loi sociétaux, entre guillemets, ces dernières années passer assez largement au Parlement. Je pense à la PMA, je pense au mariage pour tous, parfois même plus facilement que ne le reflétaient les débats dans la société. Là, on a presque l'impression que c'est l'inverse, dans le sens où quand on regarde les enquêtes d'opinion à ce sujet, les Français sont quand même très largement convaincus par l'euthanasie. Alors ils confondent beaucoup de choses, hein, évidemment, mais on a presque l'impression qu'il y a plus de débats au sein du Parlement, où peut-être les députés se rendent un peu plus compte de ce qu'ils sont en train de signer. Ma question étant donc, outre le fait qu'Emmanuel Macron pourrait organiser un référendum sur la question, c'est est-ce que cet homme-là, finalement, n'est pas prêt à sauver son, j'allais dire, son double quinquennat, dont alors on l'a accusé, on sait qu'il venait du centre, même de la gauche, on l'a accusé d'une dérive droitière plus ou moins vérifiée.
Fascisante,
oui, même à écouter certains, tout au long de ses quinquennats. Est-ce qu'il n'essaye pas de sauver un peu son identité progressiste, d'abord comme il l'avait fait avec la PMA, à peu près au même stade d'ailleurs de son premier quinquennat, en 2019, si je ne m'abuse, donc 2 ans après son élection. Là, on est 2 ans après sa réélection. Euthanasie, alors c'est vrai que ça devait être, vous l'avez dit Emmanuel, plus tôt en
théorie. J'appelle toujours Alexandre de Gazin. Hein,
oui, pardon. Si c'est Alexandre,
je vous en supplie. Hein, un peu de respect, c'est vraiment...
Voilà, est-ce qu'il y a chez Emmanuel Macron cette tentative de sauver, vous pensez, son identité progressiste?
Bah, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas l'impression qu'il ait besoin de la sauver. Enfin, on a l'impression que le seul sujet...
Aux yeux de la gauche, en tout cas.
Oui, oui, oui. Mais le seul sujet sur lequel on arrive à discerner une ligne absolument claire et le seul sujet qui a l'impression... Enfin, par rapport auquel on a l'impression que tout fonctionne, tout roule, on a l'impression que c'est effectivement les sujets sociétaux, comme on dit, que ce soit ceux que vous avez évoqués ou l'euthanasie. Et c'est peut-être malheureusement le seul héritage que laisserait Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est absolument glaçant. Mais non, j'ai l'impression que le sujet a beaucoup évolué médiatiquement depuis, si je ne me trompe pas, 3-4 ans.
Ouais.
Peut-être même 5 ans.
Ça fait un moment, je crois qu'on en parlait déjà à la fin du quinquennat de Hollande. Pour en
évoquer. Ah oui, moi j'ai l'impression de l'avoir un peu vu surgir en 2020.
2021.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on a l'impression de quelque chose d'assez inexorable. Il est venu une première fois à l'Assemblée nationale, il y a une fatalité. Et c'est pour ça que j'ai du mal à attribuer ça à Emmanuel Macron en réalité.
Je pense que vous avez tout à fait raison. Et c'est là où votre question était très mal posée, Étienne Darjac. Mais non, plus sérieusement, Emmanuel Macron n'a en fait aucune incidence, à parler beaucoup effectivement mardi dernier, mais n'a aucune incidence sur ce projet euthanasie tel qu'il est débattu actuellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron n'a plus aucune carte en main depuis le 9, enfin depuis les résultats
de 2024.
Le 7 juillet, exactement, 2024.
Depuis les résultats des élections législatives qui ont
c'est
après
ça, exactement. Exactement.
On se retrouve.
Absolument plus la main sur ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle il fait des missions durant 3 heures, effectivement, pour parler, c'est parce qu'il veut, et qu'il va beaucoup à l'international, c'est parce qu'il veut trouver un moyen d'exister. Mais en réalité, la seule chose qu'il fait actuellement, c'est prendre position sur un débat qui a été validé par les députés Renaissance, par la gauche, et en fait, qui n'a pas été bloqué avec beaucoup de virulence par Michel Barnier en août-septembre dernier, par François Bayrou, qui est pourtant un catholique revendiqué, ça joue quand même depuis effectivement août dernier.
Oui, il se dit que c'est justement pour ça qu'il a séparé d'ailleurs les deux textes palliatifs.
Oui, mais sauf qu'en fait, c'est absolument plus, encore une fois, Emmanuel Macron qui a la main. Encore une fois, c'est depuis août dernier, c'est le centre et la droite qui ont la main. Et en fait, c'est eux qui ont décidé du vote de ce texte. J'ai pas l'impression non plus que Emmanuel Macron ait besoin de cet héritage nécessairement qu'est l'euthanasie. Il essaye d'en faire quelque chose parce qu'il essaye de récupérer la séquence, mais ça a jamais été un de ses grands thèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ça a jamais été une promesse de mandat. Ça a jamais été un thème sur lequel il a beaucoup parlé, à part ces dernières semaines. Ça lui a jamais tenu à cœur. En revanche, ce qui est à peu près certain, c'est que la raison aussi pour laquelle ce texte est autant avancé actuellement et voté, c'est parce que le gouvernement Bayrou, actuellement, est incapable de faire passer la moindre loi d'ampleur. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous dire, la loi la plus impressionnante qui était passée ces derniers mois, c'est la loi sur les bistrots. Alors,
très bonne loi, par ailleurs.
Excellente loi. Et Dieu sait que ce sujet me tient à cœur, mais vous admettrez que
on y reviendra
pas...
en fin d'émission. Ouais,
tout à fait. Et peut-être après l'émission d'ailleurs.
Ouais,
mais c'est, vous admettrez que c'est peut-être pas non plus la préoccupation numéro un des... quoique en fait.
La question se pose en fait.
Pardon, mais je dis n'importe quoi. Non, mais plus sérieusement, effectivement, c'est peut-être pas la première préoccupation des Français, les bistrots. Et en fait, en revanche, l'euthanasie, ça reste un sujet majeur qui touche tout le monde, qui est une loi d'ampleur, qui va révolutionner, enfin, qui va en tout cas notre façon de vivre et qui va bouleverser la société. Même si ça se fera de manière lente, ça va bouleverser la société. Et ça donne un héritage, ça donne un texte de loi, ça donne en fait quelque chose à se mettre sous la dent pour le centre en général, et pas seulement Emmanuel Macron, mais pour le centre en général, et aussi pour les successeurs d'Emmanuel Macron quelque part. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui sont en train de porter la loi actuellement, on pourra peut-être parler de Monsieur Falorni, c'est comme ça qu'on...
Falorni, pas se tromper sur son nom de famille, exactement.
Mais voilà, c'est en fait des gens qui sont positionnés pour plus tard prendre la succession d'Emmanuel Macron.
Mais justement, j'y pense à propos de Monsieur Falorni, qui est vraiment l'initiateur de ce texte et qui ne cache pas du tout l'idéologie qui le pousse. Et ça me fait penser à un autre livre qui s'appelle, c'est un livre de Xavier Martin qui s'appelle L'homme rétréci par les lumières, le sous-titre Anatomie d'une illusion républicaine. Et je trouve ça assez intéressant. C'est un livre qui, pour être très honnête, un peu indigeste, assez difficile à lire.
Vous le vendez bien, Emmanuel.
Oui, mais qui sur le fond est très juste, et surtout par rapport à l'euthanasie, parce que l'argument phare d'Olivier Falorni et d'autres, c'est celui de la dignité humaine. Et c'est extrêmement triste de se voir, et beaucoup de députés l'ont souligné, hein, et de personnalités, que la dignité est réduite en fait à l'état de santé et à quelque chose de finalement assez matériel. Et c'est ça que je trouve dramatique dans ce texte, c'est qu'on voit que l'idéologie progressiste a fait de l'homme quelque chose qui est assez réduit, comme le titre se livre, et que finalement y a tout un tas de personnes dans la société qui d'ailleurs seront souvent en fait les plus pauvres, les plus démunis, les plus isolés. Quand on voit ce qui se passe dans les EHPAD en province, les déserts médicaux et tout ça, il y a beaucoup de gens qui vont être démunis, qui vont être délaissés par leurs proches et qui vont subir de plein fouet cette législation. Et elle va forcément bénéficier nuire à toute une frange de la population et pas à d'autres. Et c'est assez horrible de se rendre compte que d'un côté, l'État se refuse à soigner, à améliorer les soins palliatifs, à changer le système médical pour qu'il y ait plus de médecins, pour que les EHPAD soient mieux gérés et tout ça. Et que par ailleurs, il pousse depuis si longtemps un texte si dramatique. Et c'est pour ça que moi, je trouve l'hypocrisie la plus grave autour de ce texte, c'est celle qui consiste à faire croire qu'il y a un choix à poser entre souffrir et mourir. Alors que la réalité, c'est que ce choix n'existe pas, puisque avant même... imaginons qu'on puisse un jour se poser la question, il faudrait se la poser le jour où on a résolu le problème des soins palliatifs. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui, à cause des finances de l'État, ne peuvent pas bénéficier.
Il y a 20 départements actuellement.
Ne peuvent pas bénéficier de soins palliatifs. Et je trouve ça horrible. On se pose la question alors qu'on n'en a pas les moyens. C'est assez ahurissant de se dire qu'il y a beaucoup de gens, en fait, que finalement l'euthanasie est une idéologie qui va se nourrir en fait de la faiblesse du système actuel et qui profite de la faiblesse de l'État. C'est-à-dire que l'État, en même temps qu'il promeut l'euthanasie, on a l'impression qu'il fait exprès de maintenir un espèce d'État, enfin de système médical vieillissant pour promouvoir. Enfin, ça, il y a quelque chose de très désastreux, c'est-à-dire qu'il nuit déjà à des gens. Il ne donne pas déjà les solutions à tous ceux qui aujourd'hui souffrent de maladies très, très graves, et finalement pour ensuite leur proposer une solution qui est dramatique.
Je trouve que vous avez eu tous deux bien sûr de brillants propos, mais au-delà de ça, vous avez finalement en filigrane souligné un paradoxe que je trouve particulièrement intéressant à ce sujet, qui est que d'un côté, c'est un texte qui... est réalisé par un lobby, le lobby de l'euthanasie, qui est un lobby, donc l'ADMD, on les connaît, qui existe depuis 20 ans, vous les connaissez, enfin on les connaît bien quoi, ces gens-là existent depuis 20 ans et poussent depuis 20 ans pour que ce texte soit poussé. D'un autre côté, il y a le fait que, dans les sondages, je crois qu'on arrive à environ 84 ou 88% des Français qui sont favorables à l'euthanasie.
89, je crois. On était à 83 deuxième... en 2023 et 89 en 2020, quelque chose comme ça.
Voilà, et grosso modo, on a ce deuxième élément. Le troisième élément est que, par exemple, Étienne Darjac, je sais de sources sûres que vous étiez il y a quelques jours en Bourgogne, je crois, pour des raisons touristiques.
Tout à fait.
Donc vous étiez sorti de Paris, contrairement à Emmanuel et moi-même qui sommes des Parisiens invétérés. Mais le fait est que Versailles, mais le fait est que globalement, j'imagine qu'en Bourgogne, vous n'avez pas dû voir des centaines de personnes militer dans les rues pour l'euthanasie, non. Comme c'était le cas, par exemple. À l'époque de du mariage pour tous, où pour le coup on voyait des prides dans beaucoup de grandes villes de France. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a à la fois ce fait que ce soit un débat très parisien et à la fois, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, les députés se sentent beaucoup plus concernés que la population, mais en tout cas connaissent beaucoup mieux et sont beaucoup plus impliqués dans le sujet que la population. Donc ce fait que ce soit un débat très parisien et ce fait que malgré tout, il remporte l'adhésion d'un très grand nombre de Français sans que personne ne milite pour.
Et oui, mais alors la question, c'est sans doute, je sors un tout petit peu de mon rôle de présentateur, vous voudrez bien m'en excuser.
Mais
c'est
je vous demande même.
Les gens ne militent pas pour parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit.
Oui.
Moi, je suis persuadé que s'il y a autant de gens qui sont favorables à l'euthanasie aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont favorables en fait à ce qui existe déjà, qui s'appelle la loi Leonetti,
bien sûr.
Qui est à peu près universellement saluée pour son équilibre et sa justesse, hein, il me semble. En deux mots très rapides, la loi Leonetti permet non pas de faire mourir en injectant un produit, mais de laisser mourir en mettant fin au traitement avec des antidouleurs, etc. C'est une différence qui, comme ça, a l'air infime, mais qui est absolument gigantesque.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la maladie qui fait mourir et pas le traitement.
Exactement. Et je pense que dans la tête des 80% de Français qui disent qu'ils sont pour l'euthanasie, je pense qu'ils pensent à ça. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas traité sérieusement et qui est volontairement, par les partisans de ce texte, maintenu dans une case émotionnelle où on parle effectivement de mourir dans la dignité, on parle de la grande souffrance, on parle de l'abandon des malades, enfin des choses très tristes. Évidemment qu'il parle à tout le monde, parce que je pense que tout le monde ici, on arrive, je crois, messieurs, aux âges où on a tous vu sans doute un grand-parent ou un arrière-grand-parent mourir à petit feu, parfois douloureusement, parfois dans des conditions difficiles. Et c'est à ça que c'est à ça que les Français pensent. Je pense que personne ne comprend vraiment l'enjeu. Et Emmanuel a dit le mot tout à l'heure très justement. Personne ne comprend le basculement anthropologique qui consiste à passer de laisser mourir à faire mourir. Et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Je pense que si on leur expliquait clairement, pour répondre à votre question, Alexandre, la population serait peut-être. Alors, je vous dis pas qu'ils seraient d'un seul coup tous contre. Et qu'on aurait des mobilisations comme en 2013 contre le mariage pour tous, mais je pense que les choses seraient nettement plus comprises et contrastées.
Et pour étayer justement votre propos, j'ai noté qu'il y avait un sondage paru en avril, au début du mois d'avril de cette année, avril 2025, qui disait qu'un Français sur deux ignore les différences entre euthanasie, aide à mourir et suicide assisté. Voilà. Donc c'est assez dramatique, et pour revenir à la réflexion que vous avez fait, Alexandre, tout à l'heure, on sent qu'effectivement, pour une fois, c'est l'État au sens, enfin en tout cas l'État, l'élite, enfin voilà, qui joue son rôle d'autorité au sens, j'ai envie de dire propre du terme, par rapport aux Français qui en fait n'appellent pas du tout de leur vœu concrètement cette loi.
Qui joue le rôle d'autorité pour laisser une liberté, enfin pour donner une liberté, c'est ça qui est assez étonnant d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, on impose, c'est ça qui est très intéressant avec ce texte, parce que malheureusement, on arrive au bout du sujet dans peu de temps.
On peut déborder de 5 minutes. Hein.
Mais le fait est que moi, je trouve que ce qui est fascinant dans ce texte de loi, c'est qu'on arrive à une loi qui autorise, enfin qui utilise l'autorité de l'État pour imposer un choix à la population, le problème étant que, en l'occurrence, on remarque que ce choix est réellement néfaste pour l'ensemble des personnes. Je crois qu'il y a un jeune homme qui est intervenu sur CNews il y a quelques jours, dont le nom m'échappe actuellement,
et
qui atteint de la maladie de Charcot, donc maladie dégénérative qui fait que dans les années à venir, il mourra. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est ce qu'il expliquait En tant que malade grave, mais en fait la question se pose également pour une personne qui sera en EHPAD, qui aurait un cancer, Parkinson ou je ne sais quoi. En fait, le fait de ne pas avoir le choix, le fait de ne pas se poser la question, pousse en fait à vivre la vie jusqu'au bout et en fait à aller jusqu'à, c'est bête hein, mais croire au miracle, croire au fait, enfin en fait avoir cette capacité de vivre chaque instant de l'existence jusqu'au bout, avec cette possibilité de choix. En fait, on impose aux gens qui sont dans des situations de grande souffrance, on impose à ces gens de choisir entre vivre et mourir. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on augmente nécessairement largement la possibilité de mourir et du suicide, donc, ou en tout cas de l'euthanasie. Parce que, en fait, avant, la question ne se posait même pas. Donc, en fait, c'est une forme d'incitation au suicide. Et anecdote qu'on vient de constater en préparant l'émission, c'est que vous tapez aujourd'hui euthanasie, faites, si vous voulez, chers auditeurs, l'essai sur Internet. Vous tapez euthanasie sur Google. Le premier site sur lequel vous tombez, c'est SOS Suicide.
Bon, je crois que tout est dit. Avant de lancer notre premier entracte musical, je vous rappelle à tous justement que mardi 27 mai, donc le jour où le texte arrivera au vote à l'Assemblée nationale, il y a une mobilisation qui est organisée par les veilleurs. Alors, je sais pas si vous vous souvenez des veilleurs, ça avait beaucoup marqué l'actualité à l'époque de la Manif pour tous. Alors donc c'est une nouvelle génération des veilleurs. Alors je ne me souviens pas s'ils étaient encore là pour les manifestations contre la PMA, donc je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, une nouvelle équipe reprend la flamme, j'allais dire, et organise une veillée de réflexion et d'échange sur le sujet de l'euthanasie. Ça aura lieu donc ce mardi 27 mai 2025, place de la Concorde, donc dans l'8e arrondissement, à 20h. Voilà, nous invitons évidemment les auditeurs de Radio Courtoisie, s'ils le peuvent, à s'y rendre nombreux. Pour échanger, réfléchir autour de ce sujet, et surtout montrer qu'il existe toujours dans ce pays des gens qui s'opposent à ce projet de loi. Nous allons à présent lancer notre premier entracte musical, qui est une chanson de Michel Sardou, qui je crois, vous l'écouterez si vous voulez bien, est plutôt adaptée à notre discussion, et nous passerons ensuite aux aventures roumaines de Monsieur De Galzin. A tout de suite.
Ne m'enterrez pas encore, je ne suis pas mort, je dors. Et n'encombrez pas ma mémoire de vos regrets, de vos histoires, je dors. Rangez-moi dans vos souvenirs, mais je n'ai pas fini d'en finir. Je dors, gardez vos larmes et vos cris, que l'on m'ait aimé ou haï. Je dors, si par hasard, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait. Tant pis qu'il m'oublie, je des lumières. Combien dure une éternité? Combien de fois faudra-t-il faire la même route pour arriver? Combien de lunes à disparaître? Combien d'hommes encore à je ne veux pas être piétiné. Couvrez pas ma mémoire de chrysanthèmes de femmes en noir. Je dors. Si quelque part, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait. Tant pis qu'il m'oublie. Je dors. Je dors. Je dors.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, rebonsoir. Merci d'être toujours à l'écoute de Prolongation. Nous entamons déjà notre deuxième partie d'émission.
Déjà
toujours en compagnie de mes amis Alexandre de Galzin. Rebonsoir Alexandre.
Rebonsoir Étienne.
Et Emmanuel Mistral. Bonsoir Emmanuel.
Rebonsoir Étienne.
Nous allons à présent aborder un sujet européen, un sujet international. Il n'en manque pas en ce moment, puisque nous allons évoquer les récentes élections qui se sont tenues en Roumanie principalement. En Pologne, et je crois même un peu plus généralement en Europe. Cher Alexandre, je crois que vous êtes allé très récemment, pour le compte de Radio Courtoisie, en Roumanie. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez soutenir par vos dons Radio Courtoisie. C'est très important, c'est un média libre.
Qui ne vit que par les dons.
C'est un média libre, un des seuls médias libres qui existe en France, qui existe depuis presque une quarantaine d'années.
Exactement.
Donc, n'hésitez pas. Alexandre, un mot sur, alors peut-être avant de parler de votre voyage, sur d'une façon générale le contexte. On sait que ces élections ont beaucoup fait parler d'elles. Il y a eu un candidat qui a été empêché de se présenter. On a beaucoup parlé d'interventionnisme de l'Union européenne. Quelque part, qu'est-ce qui s'est passé, cher Alexandre ?
Qu'est-ce qui s'est passé, Étienne Darjac ?
Expliquez-nous ce schmilblick.
Eh oui, je vais tout démêler pour vous, chers auditeurs. Alors, donc, en décembre dernier, premier tour des élections roumaines, un candidat débarque un peu de nulle part, hors système et en même temps issu du système. Il s'agit de Călin Georgescu, qui il y a environ 20 ans était membre d'un secrétariat d'État, enfin qui est dans l'administration, etc. Et puis qui ces dernières années a réussi à se créer une stature d'homme public. Qui se démarque notamment par une certaine radicalité dans son orthodoxie religieuse, ce qui ne manquerait pas de plaire d'une certaine façon à Emmanuel Mistral, mais enfin là ça va peut-être un petit peu
nous
loin.
En parlerons tout à l'heure.
Pour vous dire, pour vous donner un exemple, Călin Georgescu, c'était par exemple un homme qui disait que la Roumanie était le peuple élu de Dieu, que lui-même était une sorte de plus ou moins d'envoyé de Dieu justement pour sauver la Roumanie de la décadence et autres mots qu'il accablait. C'était quelqu'un d'extrêmement particulier, mais qui en fait a bouleversé toute la campagne des élections présidentielles
roumaines.
Oui, qui
a vraiment changé très vite.
Exactement.
Et très fort.
Et en quelques semaines, il est passé d'un peu des tréfonds des sondages jusqu'à pas moins de 20%. Et donc, en décembre, quand le premier tour a lieu, ce qui se passe, c'est que dans l'entre-deux, donc Călin Georgescu atteint le score de 21%, si je ne m'abuse, et donc il écrase son concurrent de droite nationale, Georges Simion, qui jusque-là était autour des 30% et qui passe à 14%. Chose assez étonnante, dans l'entre-deux-tours, la Cour suprême de Roumanie annule l'élection et en fait explique qu'il y a eu une ingérence de la part de la Russie, notamment sur le compte TikTok de Călin Georgescu, qui effectivement est très impressionnant. Je crois qu'il y avait plus d'un million d'abonnés, donc pour la Roumanie c'est quand même assez impressionnant. Et donc Călin Georgescu, qui a beaucoup fait sa campagne sur TikTok, voit l'élection invalidée. Scandale évidemment dans toute la Roumanie et dans toute l'Europe. quand je parlais avec des Roumains à Bucarest, peu importe leur camp politique, ils m'expliquaient tous que c'était globalement un scandale, cette élection, d'autant que personne ne croyait à la victoire de Georgescu. Et puis donc, Georgescu est même, au moment où la campagne recommence, une nouvelle campagne commence, Georgescu est interdit de se présenter. Et donc, c'est son concurrent de droite nationale, Georges Simion, qui va le remplacer, qui était, en gros, si je dois faire une analogie, peut-être un peu plus proche que la Roumanie, c'est comme si Matteo Salvini avait été interdit de se présenter et que en fait Giorgia Meloni finalement qui aurait été plus bas dans les
plus
sondages
libéral, donc, si
exactement aussi voilà, c'est avec Kalin Georgescu et pour le coup vraiment pro-russe on peut le dire, ce qui n'est pas le cas de Georges Simion qui même parlons de groupes politiques, Kalin Georgescu aurait probablement fait partie du Patriots for Europe, donc le groupe de Marine Le Pen, ou alors de l'Europe des Nations Souveraines, de l'AFD, en l'occurrence le parti AOR de Georges Simion.
Comment ? De l'AFD de Reconquête.
Oui, exactement. Je sais quoi déjà. Oui, non, pardon. En revanche, le parti AOR, lui, est plus proche de CR, donc le parti de Giorgia Meloni. Georges Simion passe le premier tour.
Il
s'est
engouffré dans la brèche, littéralement.
Exactement. Non, mais Georges Simion était en fait le candidat de la droite nationale avant. Ouais. Il se fait manger par Georgescu pendant l'élection et puis il reprend le dessus avec le soutien de Georgescu qu'il avait promis de nommer Premier ministre. Et puis donc, il y a maintenant un peu plus de deux semaines, a lieu le premier tour de l'élection présidentielle roumaine et Georges Simion réalise un score assez impressionnant, 41% au premier tour, c'est-à-dire plus que l'addition des voix de Georgescu et de lui-même six mois plus tôt.
C'est le score, clin d'œil de l'histoire ou non, je ne sais pas si ça a intérêt, mais c'est le score de Marine Le Pen au second tour. Au second tour,
exactement,
en 2022.
Exactement, mais presque à la virgule près d'ailleurs. Oui. Et donc ça dès le premier tour. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu donc à Bucarest pour Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Oui, il faut être très corpo dans cette radio. Mais donc je me suis rendu à Bucarest le week-end dernier pour justement assister au second tour de cette élection.
Et alors vous avez vu une ville et un pays tendus.
Alors,
depuis la France, on avait l'impression que c'était très tendu.
Alors, en fait, ce qui était assez fascinant, c'est que, vous voyez, par exemple, le dimanche matin, je me réveille pour aller à l'entrée des bureaux de vote pour essayer de faire des petits, une sorte de micro-trottoir pour interroger quelques
Roumains.
Vous
parlez couramment roumain, d'ailleurs, je crois, Alexandre.
La revedere, cher Étienne. Mais plus sérieusement, je me rends à ces bureaux de vote et personne dans les rues. Personne au bureau de vote. Alors, je suis très surpris, un dimanche matin d'élection, quand même peu courant. Tout le monde était à la messe orthodoxe. Donc, quelque part, c'est pour vous dire que oui, l'élection a beaucoup tendu le pays, l'a beaucoup fracturé. Il y a certaines choses qui partent pas. Je rappelle que la Roumanie, c'est un pays à plus de 90% orthodoxe, et c'est pas des, j'ai envie de dire, pas orthodoxe comme certains sont catholiques en France. C'est assez surprenant. Et donc en fait, j'ai ensuite passé la journée vraiment pour le coup au cœur du réacteur de Georges Simion et de sa garde rapprochée. On était beaucoup de journalistes étrangers, de membres de partis politiques étrangers, parce qu'il y a une particularité avec cette élection, c'est que vous disiez vu de l'Europe, mais effectivement cette élection, jamais on a entendu parler autant de la Roumanie depuis la chute de Ceausescu il y a 35 ans. C'est-à-dire que honnêtement, Emmanuel Mistral me confiait tout à l'heure ne pas savoir placer la Roumanie sur une carte.
Emmanuel Mistral ne sait pas grand-chose, hein, malheureusement.
C'était un off.
Le fait est que d'une certaine façon, c'est vrai que personne ne parle de la Roumanie en général. Toute l'attention de l'Europe a été placée sur cette élection à cause de ce que je viens de citer, de l'annulation de Georgescu, mais aussi parce que Georges Simion, en réponse à cette focalisation de l'Europe, a choisi de faire une campagne assez surprenante. Vous vous rappelez peut-être, mais une semaine avant le premier tour, il était en France, il est passé sur CNews, et il a accordé un entretien d'environ une heure à CNews. Il a aussi réalisé une conférence avec une personne que vous connaissez bien, je crois, Étienne, vous avez déjà entendu parler, une certaine Marion M, qui en fait voilà a réalisé une conférence de presse avec elle. Il a répondu aux questions de nombreux médias français, dont évidemment
Radio Courtoisie.
Bravo.
N'oublie pas de faire des dons.
Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la campagne de Georges Simion était très européenne, ce qui est assez surprenant. Il parlait beaucoup en anglais.
Un peu à ses dépens au début. Et est-ce qu'en fait, il a retourné ça contre
exactement.
Lui. Pour lui.
Exactement. C'était exactement son ambition. D'autant que la diaspora roumaine pèse pour plus de 10% du corps électoral, ce qui est vraiment loin d'être négligeable. Et d'ailleurs, diaspora roumaine que Georges Simion a remporté largement, je crois, à 60% quasiment, au premier tour, donc score assez impressionnant, notamment en France, où les Roumains français votent largement pour Georges Simion.
Comme quoi.
Tout
est possible.
Et je vous laisse avec vos sous-entendus malsains, Étienne. Effectivement, au cœur du réacteur, il a donné, par exemple, il n'avait pas le droit de parler aux médias roumains, parce que c'était le silence électoral, mais il avait le droit de parler aux médias international.
Ah, c'est génial.
Et donc en fait à 13h, en fait à 12h30, alors que j'étais dans les rues de Bucarest, on me dit est-ce que dans 30 minutes tu peux être au palais parlementaire au parlement de Roumanie. Alors je précise, plus grand bâtiment administratif au monde. C'est-à-dire qu'en fait
c'est votre impression ou c'est un fait?
Non, c'est factuel. Bâti par Ceaușescu, 3 ans de PIB de la Roumanie pour le bâtir.
Enfin, je vous rappelle que les pays communistes n'ont pas de PIB.
Vous avez raison, et là encore, vous marquez des points. Mais non, pour m'être un peu promené à l'intérieur, honnêtement, je pense qu'il est possible de. En fait, j'aurais pu quelque part disparaître pendant une semaine, mais pas pour une prise d'otage, vraiment, parce qu'en fait, je me serais perdu dans le palais présidentiel.
Enfin, j'ai visité le Parlement de Budapest, qui est déjà absolument immense.
Je crois que vous. Non, mais honnêtement, je suis. Pour tout vous dire, je suis arrivé à une entrée. On me dit non, c'est l'autre entrée, à l'autre bout. J'ai mis une demi-heure.
À faire le tour
ah pour oui. Arriver même pas exactement à l'opposé. Enfin, c'est extrêmement, c'est impressionnant. Bref, et donc j'ai passé la journée effectivement avec Georges Simion, avec toute cette presse et ces politiques étrangers, parce que beaucoup de politiciens, alors américains, parce qu'il a dénoué des contacts avec le Parti républicain, on l'appelle le Trump roumain.
Oui,
d'ailleurs.
Ça va être une de mes questions ensuite.
Mais vous anticipez merveilleusement bien, comme toujours,
je
lis Étienne.
Comme dans un livre.
et vous savez pas à quel point ça me touche. Mais d'un autre côté, il a effectivement, il y avait des Polonais qui étaient présents, des Italiens, des Espagnols, des Anglais également. Faut bien faire avec ce qu'on a. Voilà. Donc d'une certaine façon, campagne très européenne. Et en fait, Georges Simion, pendant la journée, était très confiant. Il nous a donné une interview d'ailleurs. On a fait un sorti reportage. D'ailleurs, je vous invite à le regarder sur la chaîne YouTube de Ligne Droite. Mais effectivement, Georges Simion était très confiant. Il disait je pense que je vais gagner à 60% contre 40%.
Ah oui.
Il nous dit ça à 13h, conférence de presse.
Manque de bol.
Et 21h, les résultats tombent. Le vote est clos et le premier sondage en sortie d'une urne sort, c'est du 50-50. Donc à ce moment-là, vraiment, tout peut se jouer et Georges Simion déclare « Je suis le nouveau président de la Roumanie ». Donc là, on se dit « Bon, il doit avoir des infos qu'on n'a pas, il doit être extrêmement confiant, etc. » Et en fait, en Roumanie, la différence avec la France, c'est que vous savez, en France, les résultats tombent, en gros, on a une estimation à 20h.
Qui est toujours la bonne, quasiment.
Exactement, à quelques dixièmes. Oui, exactement. En revanche, en Roumanie, c'est un dépouillement qui se fait au long de la soirée. Donc en fait, les résultats finaux, je pense qu'on les a eus vers minuit ou 1h du matin.
Premières estimations fiables sont à 20h quand même ou
Alors 21h, c'est la fin des votes. Et donc, premier sondage en Chine à 21h. Et c'est du 50-50 dans les informations qu'on a. Et en fait, plus le dépouillement avance, plus l'écart entre Georges Simion et donc son concurrent Nicuș Ordan, qui est l'ancien maire de Bucarest et qui est d'ailleurs très francophile, qui a vécu quelques années en France, qui parle un français impeccable.
Qui lui est un simili-macroniste, de ce que j'ai compris.
Alors c'est la Roumanie, donc j'ai envie de dire le macroniste roumain,
voilà.
C'est l'équivalent de Reconquête en France.
Oui, voilà.
Il avait construit sa crédibilité sur la lutte contre la corruption notamment, non ?
Oui, alors tout à fait, parce qu'évidemment c'est un sujet majeur en Roumanie. Georges Simion avait aussi construit sa campagne. En fait, lui-même n'est pas un membre du Serail, ça reste que c'est quelqu'un qui a des idées pro-européennes pas progressiste, mais en tout cas pas conservatrice non plus. En revanche, après, c'est pas un membre du système à part entière. C'est celui qui va récupérer et agréger l'électorat du système sans en faire exactement partie.
Et j'avais une question d'ailleurs sur cette élection, Alexandre. On a un peu la pression avec cette élection que finalement, au moment où, dans plusieurs pays, comme la Roumanie, l'extrême droite arrive aux portes du pouvoir, se renforce dans le même mouvement.
Ça vous inquiète, cher Emmanuel? Vous voyez une vague brune?
Se renforce au
vous
même moment
le bruit des bottes
l'identité populiste et pas sur le plan péjoratif, sur le plan très factuel, de ces mêmes candidats. C'est-à-dire que moi, j'avais le souvenir que Gilles Evans, pendant son discours de Munich, avait évoqué la candidature de ce candidat en Russie et avait confronté justement... ce candidat avec ses autres opposants et avec cette espèce d'empêchement légal qui s'était mis en place. Ouais. Et on a un peu l'impression que à chaque fois que des candidats en Europe arrivent aux portes du pouvoir, eh bien ça, il y a ce sentiment en fait de décalage entre une élite juridique et une légitimité juridique et une légitimité du peuple. Se creuse, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Comme avec ce qui s'est passé à moindre échelle avec Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au moment où ils arrivent au port du bois, où ils peuvent gagner, finalement, ils ne gagnent pas forcément. Et surtout, l'écart se creuse entre deux formes de légitimité et entre une élite et un peuple. Et que du coup, le discours se cristallise d'autant plus sur ces thématiques-là.
Alors, le contre-exemple à ce que vous dites, c'est la question italienne.
Ma question pour refaire peut-être plus simple, c'est au moment où ces candidats-là et ces partis-là pourraient s'institutionnaliser, on a l'impression qu'au contraire, leur caractère populiste se renforce dans ces échéances.
Déjà, pour le coup, c'est pas forcément le cas. C'est pas le cas en France. C'est pas non plus le cas en Italie, où le système, c'est un système parlementaire, donc c'est quand même très différent.
Ouais, c'est différent.
Mais cela étant, Mélanie n'a pas mené une campagne radicale du tout. Elle a réussi à faire l'alliance avec Forza Italia, qui est un parti qui a déjà gouverné.
Bien sûr.
Peut voir même en Suède l'arrivée des démocrates de Suède au gouvernement. Alors, ils n'ont pas gagné l'élection, mais ils ont quand même accédé au gouvernement. Ça s'est fait avec une alliance avec la droite institutionnelle. Et eux-mêmes ne sont pas particulièrement radicalisés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double mouvement. Vous avez raison sur un point, c'est que ces partis ne s'institutionnalisent pas nécessairement. Mais d'un autre côté, il y a cette idée qui a été développée dans un excellent livre de Charles Sapin, qui s'appelle Les Moissons de la colère, qui a été publié publié au Seuil il y a
justement les européennes.
Il y a un peu plus d'un an, voilà. Et en fait, où il explique la montée de la droite nationale dans toute l'Europe. Et en fait, il y a ce concept qui est assez intéressant de romaniser les barbares. Les barbares étant la droite nationale, celle qui est, on va dire, hors système. Et en fait, c'est ce qui s'est passé justement dans certains pays comme l'Italie ou même la Suède, qui sont des pays plutôt de coalition et de compromission. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça dépend de la nature du régime. Dans ces pays-là, les barbares, entre guillemets, ont été romanisés. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de discours extrêmement radical, il n'y a pas de discours qui consiste à vouloir renverser la table, à vouloir complètement renverser le système. Un bon exemple de ça, c'est aussi l'Espagne, où il y a eu le mouvement inverse. Par exemple, le parti Vox, qui est le parti de droite nationale qui culmine à environ 13% et qui stagne dans ces eaux-là depuis quelques années, a changé de stratégie. Il était autrefois allié, notamment dans la mairie de Madrid, au PP, qui est le parti Partido Popular, le nom de son chef m'échappe, mais en tout cas la droite classique.
Oui, local, oui.
Exactement. Et en fait, ils étaient alliés dans certaines régions. Ils étaient alliés à la mairie de Madrid. Et en fait, ils ont brisé, d'une certaine façon, cette alliance pour justement s'en démarquer. Donc non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une nécessaire radicalisation. Et d'ailleurs, la preuve aussi, c'est que Kalin Georgescu a été mis complètement au banc de la campagne de Georges Simon, même s'il devait devenir Premier ministre. Mais en tout cas, on lui a plus ou moins dit « ne parle pas pendant la campagne », parce qu'en fait, Georges Simon n'avait pas envie de cette radicalité. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a le populisme, enfin on va dire la légitimité populaire qui peut prendre le pas. D'un autre côté, peut-être aussi que je pense que ces leaders comprennent que c'est pas en ayant un discours extrêmement radical qu'on obtiendra le pouvoir.
Mais c'est amusant que vous évoquiez le livre de Charles Sapin, parce que...
c'est toi qui l'as évoqué.
Non, je crois que c'est Alexandre qui l'a évoqué avant moi.
Évoqué. Ah pardon,
c'est
notre propre émission, s'il vous plaît.
Mais parce qu'en réalité, je pensais un peu à ce livre en posant ma question, parce qu'il avait fait à l'époque une analyse assez intéressante, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes ressorts qui nourrissent les mêmes poussées, que ce soit en Allemagne, en Hollande, en Suède et au Portugal notamment. Et on a un peu l'impression qu'en fait la victoire aujourd'hui du candidat un peu plus centriste donc
Nico
en Roumanie
Chandal, oui.
En fait n'est pas vraiment une victoire et finalement cette défaite signe encore l'avènement prochain
cette
nouvelle forme de populisme
encore une petite minute monsieur le bourreau quoi.
Oui voilà exactement
c'est un peu le cas aussi de Keir Starmer au Royaume-Uni.
Oui.
On sent que Et on pouvait presque dire que c'était aussi un peu le cas de Biden avant qu'il reparte.
En fait, il y a toujours
un
vote contre.
Un backlash, quelque part.
C'est un. Alors, les anglicismes. Oh,
l'expression
étienne,
excusez-moi.
On peut s'en passer, enfin,
je pense. Je mettrai une pièce de monnaie dans le cochon.
Je vous remercie.
Il y en a d'ailleurs deux.
Je m'y engage et je m'excuse. Très sincèrement.
Bon. Mettez une grosse pièce dans le cochon. Et dans d'une.
Précise qu'on parle d'une tirelire. Hein.
D'une certaine façon. C'est que. Non, d'une certaine façon, ce qu'il faut dire, mais arrêtez de rire, je vous en supplie, c'est que il y a effectivement cette radicalisation et d'un autre côté un vote effectivement qui se fait contre le projet. Ce qui signifie une chose, c'est que le projet centriste, le projet de gauche, le projet progressiste ne prend plus. Il y a aussi eu le premier tour des résultats en Pologne. On peut peut-être l'aborder rapidement, si vous me le permettez. Pour faire simple, premier tour des élections en Pologne, le premier parti, c'est la coalition civique, qui est le parti de Donald Tusk, qui est le parti, en gros, centriste roumain.
Encore une fois, version polonaise.
Les centristes, voilà, ce sont ceux qui font voter. Les centristes, ce sont ceux qui font voter une loi disant qu'on peut tirer au flashball sur les migrants qui essayent de passer la frontière à la Biélorussie.
Flashball. Vous informez, c'est tout.
J'informe, je fais mon devoir de journaliste. Deuxième parti, donc c'est le PiS, donc le parti Droit et Justice en français,
qui était au pouvoir juste avant,
qui était au pouvoir effectivement, et donc qui est incarné par Karol Nawrocki, qui, alors pardonnez ma prononciation du polonais qui est sans doute hasardeuse, je ne connais le polonais que par la boisson, et en fait le troisième parti, donc en fait là ce qui est surprenant, c'est que l'écart entre les deux partis est très faible, contrairement à ce qui était prévu, c'est-à-dire que 31,36% pour la coalition civique, donc le centre, et 29,54% pour le parti, donc le PiS, le parti Droit et Justice. Les deux partis qui suivent sont des partis bien radicaux. Le parti qui suit est le parti Confédération, membre du groupe Europe des Nations Souveraines. Confédération, c'est la confédération de plusieurs tendances en Pologne. Des tendances.
Bon, je m'approche.
C'est donc. On va commencer gentiment. Il y a par exemple le parti des chauffeurs routiers, de la défense des chauffeurs routiers. Donc, attachez votre ceinture. La suite arrive. ensuite, il y a le parti de la défense, en gros chasse-pêche et tradition, qui en fait partie. Il y a un parti monarchiste.
Jusque-là, tout va bien.
Et un parti monarchiste.
Okay.
Là, on commence à avancer un peu dans le dur. On arrive à des partis dont les motivations principales se situent plutôt autour de. Enfin, disons que la discrimination des minorités n'est pas forcément un sujet qui leur tient beaucoup à cœur.
Ou alors de façon active. Voilà, c'est ce que vous voulez dire.
Vous avez la formule.
Voilà.
Donc ça, c'est le troisième parti qui a atteint quasiment 15%
des
voix. Oui, oui. Donc ce qui est une hausse de...
Et qui est un jeune parti ou qui existe depuis...
Un parti qui existe depuis 5 ou 6 ans maintenant. Mais
qui profite peut-être de la défaite du PiS. Pour,
exactement, tout à fait. Et parce qu'effectivement, le PiS perd les élections
il y a deux, trois ans
maintenant, je crois, oui. Et en fait, donc le Confédération fait à cette époque-là 6,7%. Maintenant, il passe à 14,8%. Et alors, le parti suivant, là, il faut vraiment, vraiment s'accrocher. J'espère, chers auditeurs, que vous êtes bien assis. Donc, si je vous dis le nom de Grzegorz Braun, ça ne vous parle sans doute pas.
Oh, je connais cette marque de vodka.
Mais en revanche... oui, c'est avec un bison dessus.
Oui, non, c'est absolument. Oui.
En revanche, peut-être que si je vous parle d'un homme qui, il y a un an et demi... alors que il y avait une cérémonie religieuse juive au parlement polonais, on allume la menorah, donc vous savez
chandelier
à cette branche, et en fait voilà, c'est un symbole, comme on aurait pu j'ai envie de dire mettre une croix pour Pâques ou autre, enfin j'en sais rien, et donc en fait il y a une menorah qui est allumée et Grzegorz Braun débarque à ce moment-là avec un extincteur et éteint la menorah devant la moitié du Parlement. Une autre fois,
je crois qu'il était député européen à ce moment-là.
Il était député européen. Je sais pour être tout à fait franc, je sais plus exactement
si
où il en est. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est plus dans le parti Confédération. Il s'en est détaché. Et alors lui, pour le coup, ses convictions se situent autour de autour du rétablissement de la monarchie polonaise, une vision de comment dire, disons que je sais pas exactement où il aurait été à une certaine, dans quel camp il aurait été à une certaine époque.
D'accord.
À côté de ça, ce qui est très surprenant pour un Polonais, pour le coup pro-russe,
Ah oui, c'est plutôt étonnant.
Voilà. Et à côté de ça, qui en gros a tendance à minimiser parfois certaines parts du passé polonais. Globalement, pour vous donner aussi un petit élément, au moment où il apprend ses résultats, donc 6,
donc ce type-là a fait 6%.
Donc, ce type-là a réalisé 6,3% aux élections polonaises. C'est un peu comme si Maurice Pujol, il y a un siècle, se présentait avec le programme de Maurice Pujol il y a un siècle et faisait 6,3% oui, en France aujourd'hui.
On est presque sur du Drummond, là, même.
Voilà, exactement. On est sur quelque chose d'assez solide. Et il a fait sa célébration de façon assez surprenante, disons. Au moment où il apprend son résultat, on le voit, les images, je vous invite à les regarder parce qu'elles sont quand même assez lunaires, des espèces de, vous voyez, des flammes qui sortent du sol juste à côté de lui, et lui brandissant une épée datant de la monarchie polonaise, comme ça, pour justement célébrer sa victoire électorale. C'est assez impressionnant.
Pour vous donner une petite idée de son programme,
Emmanuel.
Son programme pouvait se résumer de cette manière, de transformer la Pologne en une nation ethnocratique et culturellement homogène, construite autour des principes traditionnalistes catholiques. C'était comme ça qu'il résumait son...
C'est une manière...
Il a fait 6%.
Et il a fait 6,3%.
Ça veut dire que si... Alors, pour revenir un petit peu, pour dézoomer un petit peu, cher Emmanuel, oui. Cher Alexandre, c'est-à-dire que si je résume, en dehors du parti centriste, alors centriste version polonais encore une fois, oui. Qui arrive très légèrement en tête, les trois partis suivants, ce qui font 29, 15 et 6%, sont les partis d'extrême droite en gros.
Oui, pour faire simple, tout à fait. D'accord. Et je dirais même que le premier parti de gauche, vraiment, qu'on peut lister, c'est un parti donc socialiste polonais qui réalise 4,9%.
Et c'est
le premier parti de gauche en Pologne. Je crois que le total de la gauche polonaise, c'est 11% ou 12%. au total. C'est-à-dire qu'en fait, 88% du spectre politique est occupé par le centre, par la droite PiS, donc qui est déjà une droite loin d'être molle, enfin qui était quand même revenue sur l'avortement, qui était pour l'immigration zéro. Ouais,
qui
et
construit,
autres.
Je crois, alors d'ailleurs, c'est ça, je crois, vous avez peut-être la réponse, qui construit. Le PiS avait engagé la construction d'un immense mur de barbelés à sa frontière.
Absolument, qui existe.
Au sud de la Pologne, et je crois que le parti au pouvoir actuel, donc dont j'ai oublié le nom, le parti centriste, a continué. La construction de ce
Absolument.
Mur et a continué
et
même
a terminé
à...
la construction de voilà. ce mur avec la Biélorussie. Ouais, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est impossible.
Parce que pour rappel, la Biélorussie, donc via la Russie, se servait de sa frontière avec la Pologne pour oui. envoyer des migrants. S'en servait comme d'une arme démographique, littéralement, contre la Pologne.
Pour déstabiliser la Pologne.
Et ce qui est très intéressant d'ailleurs par rapport à la Pologne.
C'était l'ombre les Russes. Hein,
c'est que beaucoup de médias ont récemment, dans les dernières semaines et dans les derniers mois, pointer le fait que la Pologne avait une économie particulièrement dynamique depuis quelques temps, que ce soit sur le plan de la croissance évidemment, sur le plan de l'emploi, sur le plan de son industrie, sur le plan des investissements, sur le plan de la main-d'œuvre qui je crois est reconnue comme étant particulièrement qualifiée. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui un pays qui se tourne en tout cas vers des partis politiques d'extrême droite, contrairement à ce que disent certains hommes politiques de gauche et d'extrême gauche, n'est pas un parti n'est pas un pays caractérisé par la pauvreté,
oui.
la dérive et,
au contraire, non, mais la Pologne a désormais la première armée de manière numéraire en Europe quand même, c'est-à-dire qu'une armée oui. Qui a surpassé en termes de nombre en tout cas l'armée française. À côté de ça, ils servent, alors malheureusement avec du matériel américain,
oui,
mais en tout cas
aussi,
ils achètent des F-35 en bonne partie, enfin ils se réarment, et en plus grâce à la guerre en Ukraine, d'une certaine façon, et de la menace russe qui pèse directement pour le coup sur eux, ils ont réussi à se replacer diplomatiquement au centre de l'Europe.
Je crois que c'est eux qui accueillent 80% des réfugiés ukrainiens, me semble-t-il.
Tout à fait, exactement.
Je crois que c'est qu'il y a un sujet de tension d'ailleurs là-bas.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a quand même en Pologne certains irrédentistes qui, n'oublient pas l'époque de la Grande Pologne où la Ruthénie en fait embarquait une partie aussi de l'Ukraine de l'Est. Rapidement, pour rester sur l'Europe avant que peut-être on passe à un autre sujet, il y a aussi les résultats au Portugal des élections parlementaires qui ne sont pas négligées. Étonnant résultat.
Très bon résultat.
Très bon résultat. Le premier parti est donc le parti qui est le parti de droite classique qui réalise 32,7%. Il est suivi par le parti socialiste qui réalise 23,4%, donc qui perd 6 points, qui décroche complètement, au profit du parti de Chega, de Manuel Ventura, qui est un homme assez... pour le coup, charismatique, droite nationale, membre du groupe Patriots for Europe.
Oui, qui est un vieil allié de Marine Le Pen, je crois.
Exactement, vieil allié de Marine Le Pen, qui a fait beaucoup de déplacements là-bas, et ouais. qui avait subi une attaque cardiaque, trois jours avant l'élection. C'est-à-dire qu'en fait, il était en discours et en
là,
fait
là, tout récemment, là.
Tout récemment, ah, juste oui. avant le premier tour. Et donc, c'est quelque chose qui a beaucoup tendu les électeurs portugais, notamment de droite nationale, parce qu'en fait, on ne savait pas quel effet ça allait avoir sur les résultats. Là, il s'est imposé comme la troisième force politique du pays à, encore une fois, je vais avoir le chiffre exact, mais voilà, à 0,8 points des socialistes au Portugal. Donc, actuellement, c'est la droite qui va gouverner au Portugal, mais pour obtenir la majorité, elle sera obligée de passer par Chega.
Merci Alexandre pour ce portrait, ce tableau.
Et il nous manque l'anecdote.
Oui, il y a quelques anecdotes sur votre voyage en Roumanie que vous avez passé sous silence.
On a eu le plan professionnel, mais on n'a pas eu le plan personnel.
Bon, on va enchaîner rapidement sur un autre sujet.
Sur vos anecdotes personnelles, tout à peut-être fait. À Rome.
On va passer exactement. J'ai une transition parfaite. Merci, cher Alexandre. je vous dis ça parce qu'Alexandre s'inquiétait de mes transitions avant le début de l'émission. D'un voyage européen à l'autre, allais-je dire, puisque Alexandre était en Roumanie. J'étais en Bourgogne et vous, cher Emmanuel, vous étiez à Rome.
Effectivement.
Quelques jours, quelques heures presque, après l'élection. Alors, vous allez nous raconter parce qu'effectivement, vous espériez, je crois, arriver à l'heure et vous êtes arrivé finalement un peu en retard. Quelques donc heures après l'élection de Robert Francis Prévost. Prévost, n'est-ce pas ?
Prévost.
Qu'on peut prononcer Prévost à la française.
Robert Francis Prévost.
Voilà. Dont je signale par ailleurs à mes auditeurs qu'il a des origines berrichonnes.
Oh.
Tout à fait.
Moi, je sais qu'il est cousin avec Catherine Deneuve, donc...
Vive le Berry, encore une fois.
Votre irrédentisme vous perdra.
Robert Prévost, donc, qui est devenu Léon XIV. On avait beaucoup, beaucoup parlé dans cette émission de... À l'époque, d'abord, où François était hospitalisé, puis juste après sa mort, d'un bilan de son pontificat, à la fois sur le plan religieux, puisque nous sommes à peu près tous catholiques ou catholicisants. Autour de cette table, je ne vise personne. On avait beaucoup parlé donc du bilan religieux, politique, international, diplomatique du pape François, de sa relation avec la France notamment. Et on attendait beaucoup, c'est vrai, ce nouveau pape. Alors, ce nouveau pape, le voici, Léon XIV. Et je vais, puisqu'Alexandre a beaucoup parlé, c'était fort intéressant tout à l'heure, je vais laisser mon ami Emmanuel. Nous dire d'abord très simplement, peut-être qu'on peut faire, on peut commencer par un petit tour de table comme ça, ce qu'il pense de ce nouveau pape. Rapidement, on rentrera dans les détails plus tard. Ce que vous pensez tout à fait de Léon XIV.
Bon, déjà, c'est évidemment un sujet un peu délicat parce qu'on a du mal encore à voir les grandes lignes de son pontificat et c'est difficile de se prononcer. Mais moi, effectivement, comme vous l'avez dit, donc j'étais à Rome le lendemain, malheureusement, de l'élection du pape. Et j'ai passé tout le week-end, et c'est d'ailleurs pour cette noble raison que nous n'avons pas pu faire l'élection avec Radio Courtoisie avec Stanislas Rigaud, c'est que nous étions à Rome. Voilà. Ce qui, j'espère, nous excuse auprès de nos chers auditeurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'étant à Rome, moi j'ai eu forcément un rapport, si on peut dire, avec...
Privilégié.
Non, mais un rapport avec ce début de pontificat assez touchant, parce que on est venu à Rome pour voir le pape, on est venu, on a... Quand on a connu la date du conclave, on s'est assez vite décidé comme ça, quasiment sur un coup de tête, à prendre nos billets. Et donc, c'était très touchant à Rome de voir cette ferveur autour de l'élection, de voir cette liesse qui animait la place Saint-Pierre, qui était absolument bondée au moment où est apparue la fumée blanche. Alors même que, évidemment, quand apparaît la fumée blanche, on ne sait pas qui est le pape. Donc c'est une des rares élections au monde où la joie se manifeste avant même d'avoir le nom du vainqueur.
Résultat, oui.
Et c'était très touchant parce qu'après, donc moi qui n'ai eu que les jours qui ont suivi l'élection, j'ai vu quand même dans les rues de Rome, sur la place Saint-Pierre, dans Saint-Pierre, dans toutes les basiliques et autour aussi de Sainte-Marie-Majeure où est enterré le pape François, cette ferveur religieuse qui caractérise évidemment habituellement la ville éternelle, mais qui était d'autant plus remarquable à ce moment-là. Et donc j'ai trouvé ça particulièrement touchant après, effectivement, comme on l'a dit, ce pontificat délicat du pape François, très politique, très clivant à bien des égards, de retrouver cette unité, et cette unité justement Et c'est là où vous voulez sans doute qu'on en vienne, cher Étienne, qui caractérise déjà
le tour de table,
qui caractérise déjà en fait le pontificat de Léon XIV, déjà parce que c'est sa devise, et aussi parce qu'il l'a évoqué à plusieurs reprises, que ce soit auprès des cardinaux comme dans ses discours, ses quelques allocutions qu'il a eu place Saint-Pierre. Donc voilà, moi j'ai eu un rapport, je pense effectivement un peu privilégié, parce que j'ai participé un peu à cette émotion dans la ville même de Rome, et puis j'ai été forcément un peu touché par les premiers messages qui sont assez différents évidemment du dernier pontificat, et qui tracent une ligne plus apaisée et aussi plus plus centrée peut-être sur l'évangile, je crois, parce que moins politique.
Merci Emmanuel, on reviendra sur tout ça. Alexandre, un mot sur ce que vous inspire ce nouveau pape?
Trois éléments. D'abord, je trouvais qu'il avait un visage de bonté absolument fascinant et
rayonnant,
très
vraiment, ouais.
Rayonnant, qui a l'air particulièrement doux. Son rapport avec son frère, qui a, en fait, donc est un Américain quelques années plus âgé que lui, dont on a vu la réaction ayant appris l'élection de notre nouveau pape. Sa relation avec son frère est très touchante aussi. Le moment où on le voit apparaître au balcon est très touchant. Le moment où il reçoit l'anneau du pêcheur est très touchant. Ça contraste beaucoup, je trouve, avec le pape François, qui, pour le coup, avait l'air de vouloir directement agir dès les premiers jours de son pontificat. Là, j'ai trouvé en l'occurrence qu'on était plus dans un moment d'émotion qu'un personnel, presque. Et c'est ça qui est assez, assez fascinant. J'ai vraiment vu un homme, je trouve. Ensuite, le deuxième élément, c'est que j'ai l'impression que c'est effectivement, vous l'avez dit, Emmanuel, un homme qui se présente et qui a été élu dans un objectif de conciliation, de réconciliation, même entre les différentes branches on va dire plus ou moins politique que comporte le catholicisme. Un point où effectivement les relations s'étaient pas mal tendues, de ce qu'on a pu comprendre avant le conclave, entre les différents courants qui existent dans l'Église catholique, et même qu'on peut voir dans le monde entier. Et peut-être le troisième élément qui me fait penser que c'est peut-être sans doute une bonne nouvelle, c'est que ces premières prises de position sont globalement de très bonnes nouvelles, je trouve. C'est-à-dire que il me semble que ses premiers mots au balcon sont « que la paix soit avec vous », ce qui est déjà des paroles, encore une fois, réconciliatrices et que je trouve de bon aloi. Récemment, il a aussi pris position sur deux sujets de conflits internationaux majeurs, que sont le conflit à Gaza, où il a déploré la politique offensive et violente de Benjamin Netanyahou. Et il a aussi voulu, dans le même temps, se poser comme un médiateur sur la question ukrainienne, question sur laquelle le pape François a largement éludé pour des raisons d'œcuménisme, notamment durant son pontificat. Il a directement proposé que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se rencontrent au Vatican pour aller négocier. Permettez-moi de finir ma phrase, je vous en supplie.
Bien sûr, bien sûr.
Emmanuel Mistral.
Non, mais Emmanuel trépigne déjà de vous répondre.
Plus sérieusement, effectivement, donc honnêtement, que de bons signaux envoyés pour le moment. Et si c'est un pape qui place sous son pontificat sous le sceau de la paix, ça me semble plutôt être une bonne chose dans une église catholique tourmentée.
Mais je voulais simplement réagir, cher Alexandre, non pas pour vous couper, mais j'ai justement l'impression qu'à la différence du pape François, Léon XIV, quand il parle de la paix, le peu de fois qu'il l'a fait, vous avez mentionné des éléments assez politiques, des prises de position. Moi, j'ai au contraire l'impression que il se rattache toujours au Christ, au message de l'Évangile, et que c'est ça qui le distingue du pape François. L'unité dont il parle, c'est l'unité dans le Christ. La paix dont il parle, c'est la paix du Christ. Et je trouve que c'est justement ce qu'on attend d'un pape. C'est-à-dire que même si ce que vous avez cité à propos de la guerre en Ukraine est louable, ce qu'on attend, c'est pas tant qu'il apporte une réponse politique, c'est qu'il apporte une un message que personne d'autre ne peut porter. Alors de fait, il y a un vrai sujet diplomatique puisque l'Église est une puissance diplomatique qui est assez extraordinaire parce que l'Église, est, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais est présente dans tous les pays du monde, un réseau absolument incroyable.
C'est la plus vieille et la plus étendue diplomatie du monde.
Et puis représente un symbole qui parle à quasiment à tout le monde, donc il y a une force assez extraordinaire. Mais ce qui importe plus que cela, c'est le message singulier de l'Évangile. Et c'est pour ça que le pape, aujourd'hui, a quelque chose à dire qui n'est pas le message que peuvent porter hein, Emmanuel Macron, hein, Donald Trump et n'importe qui. C'est un peu là-dessus qu'on l'attend. Et c'est, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, justement, il a un peu recentré l'ensemble de ses messages sur des dimensions un peu plus intérieures. Et c'est peut-être là, j'oserais pas avoir une position trop radicale, mais qu'on voit un peu le signe de son augustinisme et de son rapport, en fait, à Saint-Augustin et à la spiritualité. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les confessions de Saint-Augustin, mais tout le début des confessions de mémoire, c'est ce long cheminement vers la foi de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin a au moins cette phrase assez merveilleuse où, j'aurais pas la citation exacte, mais il explique avoir cherché à l'extérieur de lui-même le Christ avant de se rendre compte que le Christ était à l'intérieur de lui-même et que le Christ était plus intime à lui-même qu'il ne l'était lui-même. Et je trouve que dans toutes ces prises de parole, il y a cette spiritualité qui transparaît, ce rapport à chaque sujet intimement lié à l'Évangile et à la foi. Et je trouve que c'est ça qui est rassurant, c'est de retrouver un pape, alors je ne vais pas non plus caricaturer le pape François, mais de retrouver un pape qui ressente chacun de ses messages autour de l'Évangile. Et c'est, pour moi, c'est ça la vocation singulière, évidemment, de l'Église aujourd'hui.
Alors avant que Alexandre vous réponde, et je crois qu'il en a très envie, j'interromps votre flot passionnant de parole pour vous lire le courrier d'un auditeur. Nous remercions beaucoup les auditeurs qui nous écoutent et qui nous écrivent. Vous pouvez nous écrire jusqu'à la fin de cette émission à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Cet auditeur nous écrit qu'il nous remercie pour la grande qualité de cette émission et particulièrement, je le dis, Emmanuel Mistral, dont l'éloquence le ravit. Je lis vraiment texto. Hein. Je sais qu'on a du mal à y croire avec Alexandre, mais bon, voilà.
Mais on apprend que la mère d'Emmanuel Mistral nous écoute actuellement.
En tout cas, Emmanuel, cet auditeur qui vous apprécie grandement, a plusieurs questions donc, à vous poser. Et vous demande notamment ce que vous pensez de ce qu'il adviendra en termes des relations franco-vaticanes à l'avenir. Puisque, précise-t-il, Emmanuel Macron avait une relation difficile avec feu le pape François. Alors, bon, Emmanuel Macron a une relation difficile avec beaucoup de monde, malheureusement.
Je ne suis pas certain de ça, en plus. J'ai l'impression qu'il était plutôt très proche, mais...
Donc, en tout cas, vous avez une question à l'auditeur, cher Emmanuel. Votre réponse.
Difficile d'y répondre. Moi, j'avais cru comprendre. On a lu pas mal de choses. Vous savez, pendant le conclave ou en amont du conclave, le bruit a couru, notamment dans les médias italiens, qu'Emmanuel Macron voulait... s'immiscer dans la politique vaticane. Et moi, j'avais entendu dire à ce moment-là, qui était particulièrement proche du pape François, qu'ils avaient une vraie, affection déjà, et puis une espèce de relation assez, assez personnelle.
Ils s'étaient rencontrés à Marseille
Plusieurs fois. Emmanuel Macron est venu plusieurs fois au Vatican.
Le pape était venu à Strasbourg.
Emmanuel Macron a toujours fait le déplacement. Mais après, sur les relations...
De profil jésuitique.
Très bonne analyse, cher Alexandre. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rendre le micro.
Oui,
puisque nous en avons fini avec l'éloquence de M. Mistral.
Qui ravit tout le monde apparemment. Et la mienne, bon, j'attends un mail s'il vous plaît. Deux éléments, juste... Je me rappelle aussi un autre point qui m'avait particulièrement touché avec notre nouveau pape, c'est qu'il ait pris le nom de Léon XIV. Léon XIV qui donc, se place directement à l'unité de... Alors, Léon XIII, j'avoue que je ne connais pas Léon XII, Léon XI et Léon... Oui. etc.
Restons-en
à Léon XIII qui est quand même l'auteur de l'encyclique Rerum Novarum. Rerum Novarum qui est donc cette... encyclique qui fonde la doctrine sociale de l'Église au moment où l'Église traverse une crise peut-être la plus importante une des plus importantes de la modernité en tout cas. Il y en a eu pas mal, mais celle-ci est quand même loin d'être négligeable. Le marxisme arrive, la vocation sociale de l'Église est en crise, les États sont de plus en plus laïques et Léon XIII publie Rerum Novarum qui va notamment consacrer la destination universelle des biens, qui va consacrer justement l'idée de la charité, d'une doctrine sociale, voilà, de l'Église, qui, à titre personnel, m'inspire beaucoup.
Vous avez tout à fait raison, cher Alexandre. Je fais cependant, une toute petite incise pour vous rappeler que le but, l'un des buts, en tout cas, de Rerum Novarum, c'est surtout l'opposition au socialisme.
Absolument.
La condamnation très franche, très claire et très directe.
Du marxisme, pour être plus précis.
Du socialisme, du marxisme et du collectivisme. Et c'est en réponse à l'épidémie socialiste, à ce péril rouge finalement, que Léon XIII effectivement définit la doctrine sociale de la Église. C'est bien de le préciser.
Non mais tout à fait, mais pour être même un peu plus précis que vous, si jamais je peux y parvenir, il ne condamne pas non plus le socialisme en tant que politique sociale qui serait destinée à aider les plus pauvres et à les soutenir. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est écrit dans Rerum Novarum, c'est pas que c'est pas une question d'horrible libéralisme qui est aussi en train de naître et d'exploser à ce moment-là.
Où, oui, d'ailleurs, les excès du capitalisme sont déjà condamnés dans
Rerum
Novarum.
Exactement. Et en fait,
les excès,
l'idée,
pas le principe.
C'est l'idée que tout le monde doit avoir une forme de tout le monde doit avoir sa propriété et en même temps qu'il y a quelque chose qui voilà une politique sociale qui doit être menée et donc ça veut dire que en fait Léon XIV se place dans la continuité du pape François en ce sens qu'il annonce un pontificat qui est destiné aux pauvres mais qu'il annonce aussi un pontificat aussi plus intellectuel. Emmanuel le disait très bien justement que le pontificat précédent. Un point pour répondre aussi sur la question de la politique. Contrairement, il y a une tendance, j'ai l'impression, et c'est pas du tout une condamnation, mais une tendance qui existe chez beaucoup de conservateurs catholiques, même à des tendances parfois intégristes ou autres, mais qui consiste à vouloir avoir des papes théologiens. C'est très bien, les papes théologiens, et j'ai strictement rien contre, Benoît XVI en était un éminent représentant. D'un autre côté, ce qu'on demande à un pape, c'est aussi... l'Église a toujours, dans toute son histoire, fait de la politique. Et en fait, même depuis la fin des États pontificaux, moi je rappelle que durant la Seconde Guerre mondiale, on a eu une papauté qui était effectivement très active aussi justement pour condamner les horreurs de tous les totalitarismes, que l'Église a toujours été politique autant qu'elle a pu l'être, et que demander à un pape de ne pas être politique, je pense que c'est une erreur. En revanche, ce qu'il faut lui demander, c'est que sa politique soit effectivement basée sur la théologie et sur un fond religieux.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Stanislas vous dirait tout est politique.
Stanislas n'est pas là, pas là, on en profite. Oubliez-le.
Voilà, on peut deux secondes être tranquille.
Je ne vous suffis pas, Emmanuel.
Vous n'êtes qu'un
satisfait tout à fait, Étienne. Vous pouvez me redonner la parole.
Mais pour rebondir à ce que vous venez de dire, vous avez dit que vous avez parlé de la dimension intellectuelle éventuellement du pontificat de Léon XIV, mais ça me fait penser à un entretien que le cardinal Filoni a donné à l'excellent Jean-Marie Guénot du Figaro, je crois une semaine après l'élection du pape.
Qu'on salue Jean-Marie Guénot.
Qu'on salue évidemment. Donc ce cardinal qui est en fait une des figures principales du Saint-Siège, puisqu'il il a eu des grosses responsabilités, il est actuellement chargé de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et dans son entretien il insiste sur deux choses: la fidélité à la tradition, qui lie évidemment au fait que le pape a choisi de se mettre dans la continuité d'autres papes avec ce choix de ce patronyme, et puis l'autre aspect qu'il met en avant, c'est ce qu'il appelle la sensibilité aux réalités quotidiennes. Et ça, je trouve que c'est très important parce que, contrairement, je crois, à ce que vous avez voulu dire, dites-moi si je me trompe, hein, mais il a cette grande, expérience ou connexion, sens du terrain que n'avait pas forcément le pape François. Et j'ai cru comprendre que d'ailleurs, la carrière du cardinal Prévost est une carrière assez intéressante dans la mesure où il a traversé en fait beaucoup d'échelons, qu'il a beaucoup fréquenté le terrain, notamment évidemment, enfin surtout même en Amérique latine, et que ça en fait un pape éminemment missionnaire, qui donc a priori ne prendra pas des positions aussi idéologiques, intellectuelles et peut-être audacieuses que le pape François, et qu'il restera plus près des préoccupations concrètes des catholiques. Et donc je trouve qu'il y a ces éléments assez intéressants dans les premières lignes qu'on peut discerner du pape Léon XIV, qu'il a d'ailleurs exposé aux cardinaux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut commencer à y voir quand même un peu plus clair. C'est pour moi l'unité de l'Église, mais l'unité de l'Église dans le Christ, et pas de manière abstraite et naïve. Ensuite, une dimension effectivement très, très proche, que ce soit, on l'a vu d'ailleurs dans ses, dans ses bains de foule, dans ses expressions, même dans sa bonhomie, et donc à la fois dans son rapport aux autres et en même temps dans sa, dans sa manière de prêcher, effectivement, il touche des réalités qui sont proches des catholiques. Et puis enfin, ça c'est un élément que j'ai découvert assez récemment, l'élection s'est faite relativement rapidement.
Très rapidement, et
donc, 3 tours je crois.
Et ouais. Donc la c'est un pape qui a émergé, pas par défaut, il a été choisi véritablement ouais. par les autres.
Alors qu'il n'était pas dans les 3-4 premiers noms,
bah, il était diffusé cité quand même, je crois.
Il était cité,
mais pas dans les principaux...
Il était cité, mais pour vous donner quelques éléments que m'a confié au détour d'une terrasse un vaticaniste romain.
Une terrasse romaine d'ailleurs.
Terrasse romaine, bien sûr.
Quelle vie vous menez.
Il y a eu une stratégie assez habile de la part des partisans de Prévost, qui pendant les jours qui ont pressé les conclaves ont choisi de ne pas le mettre trop en avant afin d'éviter qu'il attire trop de polémiques. Et de mettre plutôt en avant des personnalités qui n'avaient aucune chance de devenir pape et qui ont D'accord. attiré, cristallisé des polémiques. Et ce qui fait qu'il y a eu un effet de surprise assez important lors du premier vote du conclave, où il y a les deux cardinaux, j'ai envie de dire, les plus proches de la victoire, se sont vus naturellement attirer un certain nombre de votes, mais ont vu avec surprise émerger un troisième candidat dont ils avaient peu entendu parler. Et ce candidat, c'était... le cardinal Prévost, qui est soutenu par l'ensemble du Commonwealth, qui a massivement apporté son soutien avant que les conservateurs ne fassent tout basculer en sa faveur. Bref, mais tout ça pour
oui,
dire...
Oui, ce que vous disiez, c'est que c'est les in fine, c'était pas nécessairement un candidat conservateur, mais c'est sa progression assez rapide dans le corps électoral qui a entraîné le ralliement des conservateurs à sa cause.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que donc, c'est un pape qui a été choisi positivement et non pas négativement, et c'est une véritable personnalité qui est émergée. On sait qu'avant le conclave, il y a des, ce qu'on appelle, je crois, des conférences qui donc, précèdent l'échéance et qui permettent à chaque cardinal d'établir, en fait, de présenter sa vision de manière assez succincte, hein, de présenter sa vision pour l'Église. Et en fait, c'est vraiment cette vision qui a été choisie. Il n'a pas été choisi par défaut, on a voulu lui confier le pouvoir. Et donc, c'est une personnalité qui, par rapport à la curie, a été choisie par en raison de de ses rapports assez faciles avec les cardinaux. On sait que pape François était extrêmement dur avec certains, ouais. que ce soit dans la gestion de la curie, dans les nominations et tout ça, alors que lui, pour moi, c'est le troisième aspect un peu du pape qu'on discerne, est une personnalité qui, d'un point de vue purement politique au sein même de l'Église, est assez conciliante.
C'est un diplomate.
Voilà, exactement.
Il nous reste vraiment 1 minute 30, cher Alexandre, donc si vous voulez dire un dernier mot sur ce sujet...
Alors, je peux la consacrer si on va faire votre éloge, Étienne Darjac, ce qui ne serait pas immérité d'ailleurs. Très rapidement, pour revenir à la question de la politique, en fait, la question qui importe est que le pape en fait, ne doit pas se sacrifier aux idéologies et aux clivages politiques qui dominent en Europe, c'est certain. Ça ne veut pas dire non plus qu'en fait on doit adopter les clivages politiques qui sont dans les terres de mission ou dans les terres où il y a le plus de catholiques aujourd'hui. D'un autre côté, demander à un pape de ne pas faire de politique et de parler uniquement aux chrétiens, je pense que c'est une erreur, parce qu'en fait le pape est certes le chef de l'Église, mais c'est aussi celui qui a pour mission aussi de pousser les chrétiens, non pas seulement les chrétiens, mais en tout cas les êtres humains à se tourner vers l'Église et à être lui-même missionnaire et donc à prendre des positions politiques.
Merci, cher Alexandre.
Et comme le dit Assez Rigaud, tout est politique.
Tout à fait. Merci à vous deux pour cette émission. Merci de m'avoir accompagné pendant cette première présentation.
Merci. Vous avez bien réussi, d'ailleurs.
Merci, Stanislas.
On regrette évidemment Stanislas, qu'on salue depuis son voyage d'affaires. Merci à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Nous rendons l'antenne avec chagrin, mais nous vous promettons que nous reviendrons d'ici 2 semaines. Très bonne soirée à tous.
Vous venez d'entendre Prolongation dirigée aujourd'hui par Étienne Darjac, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 23 mai 2025 de 21h30 à 23h et réalisée par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.